Chapitre 4 Histoire des 12 Pendant que vous pêchiez des truites en Écosse, monsieur de Fierdras, et que mon frère, ici présent, faisait voir dans sa personne la grave Sorbonne en habit écarlate, chassant le renard à franc étrier sur les domaines de notre gracieux cousin le duc de Northumberland, ces demoiselles de Touffe de Lys, qui, en leur qualité de châtelaines très aimées des gens de leur terre, avaient cru pouvoir se dispenser d'émigrer, ainsi que moi, la dernière d'une famille nombreuse et depuis longtemps dispersée, nous nous occupions de ce côté-ci de la Manche à bien autre chose, je vous assure, qu'à filer nos quenouilles de lin, comme dit la vieille chanson bretonne. Les temps paisibles où l'on ourlait des serviettes ouvrées dans la salle à manger du château n'étaient plus. Quand la France se mourait dans les guerres civiles, les rouets, l'honneur de la maison, devant lesquels nous avions vu pendant notre enfance nos mères et nos aïeules assises comme des princesses des contes de fées, les rouets dormaient, débandés et couverts de poussière, dans quelques coins du grenier silencieux. Pour parler à la manière des fileuses cotentinaises, nous avions un lent foie plus dur à peigner. Il n'y avait plus de maison, plus de famille, plus de pauvres à vêtir, plus de paysannes à doter. Et la chemise rouge de mademoiselle de Corday était tout le trousseau en espérance qu'à des filles comme nous avait laissé la République. Or, à l'époque dont je vais vous parler, monsieur de Fierdras, la Grande Guerre, ainsi que nous appelions la guerre de Vendée, était malheureusement finie. Henri de la Roche-Jacquelin, qui avait compté sur l'appui des populations normandes et bretonnes, avait, un beau matin, paru sous les murs de Granville. Mais, défendu par la mer et ses rochers encore mieux que par les réquisitionnaires républicains, cet inaccessible perchoir aux mouettes avait tenu ferme, et, de rage de ne pouvoir s'en rendre maître, la Roche-Jacquelin, à ce moment-là, dit-on, dégoûtée de la vie, était allée briser son épée sur la porte de la ville, malgré le canon et la fusillade, puis il avait ramené ses Vendéens. Du reste, si, comme on l'avait cru d'abord, Granville n'avait pas fait de résistance, le sort de la guerre royaliste aurait-il été plus heureux? Nul des chefs normands, et je les ai tous très bien connus, qui avaient dans notre Cotentin essayé d'organiser une chouannerie à l'instar de celle de l'Anjou et du Maine, ne le pensaient, même dans ce temps où l'inflammation des esprits rendait toute illusion facile. Pour le croire, ils jugeaient trop bien le paysan normand, qui se battait comme un coq d'Irlande pour son fumier et dans sa basse-cour, mais à qui la Révolution, en vendant à vil prix les biens d'émigrés et les biens d'église, avait précisément offert le morceau de terre pour lequel cette race, pillarde et conservatrice à la fois, a toujours combattu, depuis sa première apparition dans l'histoire. Vous n'êtes pas normand pour des prunes, baron de Fierdras, et vous savez comme moi, par expérience, que le vieux sang des pirates du Nord se retrouve encore dans les veines des plus chétifs de nos paysans en sabots. Le général Télémaque, comme nous disions alors, c'est-à-dire de son vrai nom, le chevalier de Montresel, qui avait été chargé par M. de Frotté d'organiser la guerre dans cette partie du Cotentin, m'a souvent répété combien il avait été difficile de faire décrocher du manteau de la cheminée le fusil de ses paysans, chez qui l'amour du roi, la religion, le respect des nobles ne venaient que bien après l'amour de leurs faits et le besoin d'avoir deux quais sur la planche. Tous les intérêts de ces gens-là sont des intérêts, me disait dans son dépit le chevalier qui n'était pas de Normandie. Et il ajoutait, monsieur de Montresel, « Si la chair de bleu s'était vendue au prix du gibier sur les marchés de Carentan ou de Valogne, pas de doute que mes lambins dégourdis n'en eussent bourré leur carnassière et ne nous eussent abattus à tout coin de haie des républicains comme ils abattaient dans les marais de Néou des canards sauvages et des sarcelles. » Et si je reviens sur tout cela, monsieur le Fierdras, quoique vous le sachiez aussi bien que moi, c'est que vous n'étiez plus là, vous, quand nous y étions, et que je me sens obligé, avant d'entrer dans mon histoire, de vous rappeler ce qui se passait dans cette partie du Cotentin vers la fin de 1799. Jamais depuis la mort du roi et de la reine, et depuis que la guerre civile avait fait deux camps de la France, nous n'avions eu, nous autres royalistes, le courage, sinon plus abattus, au moins plus navrés. Le désastre de la Vendée, le massacre de Quiberon, la triste fin de la chouannerie du Maine, avaient été la mort de nos plus chères espérances, et si nous tenions encore, c'était pour l'honneur. C'était comme pour justifier la vieille parole « on va bien loin quand on est lassé ». Monsieur de Frotté, qui avait refusé de reconnaître le traité de l'Amabilais, continuait de correspondre avec les princes. Des hommes dévoués passaient nuitamment la mer et allaient chercher en Angleterre, pour les rapporter à la côte de France, des dépêches et des instructions. Parmi eux, il en était un qui s'était distingué entre les plus intrépides par une audace, un sang-froid et une adresse incomparables. C'était le chevalier des Touches. Je ne vous peindrai pas le chevalier. Vous le disiez, il n'y a qu'un instant, à mon frère, vous l'avez connu à Londres, et vous l'appeliez la belle Hélène, beaucoup pour son enlèvement, et un peu aussi pour sa beauté. Car il avait, si vous vous en souvenez, une beauté presque féminine, avec son teint blanc et ses beaux cheveux annelés, qui semblaient poudrés tant ils étaient blonds. Cette beauté dont tout le monde parlait, et dont j'ai vu des femmes jalouses, cette délicate figure d'ange de Michel ne m'a jamais beaucoup charmé. J'ai souvent raillé sur leurs admirations enthousiastes Mesdemoiselles de Touffe de Lys et bien d'autres jeunes filles de ce temps qui regardaient le chevalier de Langotière comme un miracle et l'auraient volontiers nommé la belle des belles, comme du temps de la Fronde on disait de la duchesse de Montbazon. Seulement, tout en raillant, je n'oubliais pas que cette mignonne beauté de fille à marier était doublé de l'âme d'un homme, que sous cette peau fine, il y avait un cœur de chêne et des muscles comme des cordes à puits. Un jour, dans une foire, à Bricquebec, j'ai vu le chevalier, traité de chouan avec insolence sous une tente, faire tête à quatre vigoureux paysans, dont il tordit les pieds de frêne dans ses charmantes mains, comme si ça avait été des roseaux. Je l'avais vu, pris brutalement à la cravate par un brigadier de gendarmerie taillé en Hercule, saisir le pouce de cet homme entre ses petites dents, ses deux si jolis ronds de perles, le couper net d'un seul coup et le souffler à la figure du brigadier, tout en s'échappant par un bond qui troua la foule ameutée autour d'eux. Et depuis ce jour-là, je l'avoue, la beauté de ce terrible coupeur de pouce m'avait paru moins efféminée. Depuis ce jour-là aussi, j'avais appris à le connaître, au château de Touffe de Lys, où, comme je vous le disais, baron, nous avions notre quartier général le mieux caché et le plus sûr. Êtes-vous allé quelquefois à Touffe de Lys, monsieur de Fierdras? Vos domaines à vous n'étaient pas de ce côté, et de ce pauvre château ruiné, il ne reste pas maintenant une seule pierre. C'était un assez vaste manoir, autrefois crénelé, un débris de construction féodale, qui pouvait abriter une troupe nombreuse entre ses quatre tourelles, et dont les environs étaient couverts de ces grands bois, le vrai nid de toutes les chouanneries, qui rappelaient par leur noirceur et les dédales de leurs clairières ce fameux bois de Misdon, où le premier des chouans, un condé de Broussailles, Jean Cottereau, avait toute sa vie combattu. Situé à peu de distance d'une côte solitaire, presque inabordable à cause des récifs, le château de Touffe de Lys semblait avoir été placé là, comme avec la main, en prévision de ces guerres de partisans à moitié éteintes et que nous essayions de rallumer. Tout ce qui avait résolu de reprendre et de continuer cette malheureuse guerre interrompue, tout ce qui repoussait dans son âme d'oppressive pacification, tout ce qui pensait que des combats de buissons et de haies pouvaient mieux réussir qu'une guerre de grande ligne, devenu d'ailleurs impossible, tous ceux qui voulaient brûler une dernière cartouche contre la fortune, l'ignoble et lâche fortune, et s'enterrer sous leur dernier coup de fusil, venaient de toutes parts se réunir et se concerter dans ce fidèle château de Touffe de Lys. Les chefs de cette arrière chouannerie, qui eut son dénouement hideusement tragique à la mort de Frotté, massacré dans le fossé de Verneuil, y arrivaient sous toutes sortes de déguisements, et maintes fois ils s'y abouchèrent avec les derniers survivants de la chouannerie du Maine écrasée. Afin de désorienter le soupçon, le château, qui n'avait plus que deux châtelaines, bien peu inquiétantes, à ce qu'il semblait, pour la République, était le refuge de quelques femmes de la contrée, dont les pères, les maris, les frères avaient émigré, et qui, n'ayant voulu ou pu les suivre, évitaient, en vivant à la campagne, au milieu des paysans chez lesquels un vieux respect pour leur famille existait encore, ce qu'elles n'eussent pas évité dans les villes, le gouffre toujours béant des maisons d'arrêt. elles y vivaient le plus obscurément qu'elles pouvaient. Cherchant à se faire oublier des représentants du peuple en mission, ces épouvantables inquisiteurs, mais cherchant à renouer les mailles du réseau, si souvent brisées, d'une insurrection à laquelle l'ensemble a trop manqué toujours. Ces femmes, dont voici 4 échantillons, monsieur de Fierdras. Et des ciseaux qu'elles tenaient, mademoiselle de Percy indiqua les 2 touffes de lys, mademoiselle Aimée, et enfin elle-même, en retournant la pointe de ses ciseaux, vers les redoutables timbales de son corsage. Ces femmes étaient dans tout l'éclat de leur fraîcheur de Normande, et dans toute la romanesque ferveur des sentiments de leur jeunesse. Mais dressées au courage par les événements mortels de chaque jour, perpétuellement à quelques pieds de leur tête, et brûlant de ce royalisme qui n'existe plus, même dans vous autres hommes qui avez pourtant si longtemps combattu et souffert pour la royauté, elles ne ressemblaient pas à ce qu'avait été leur mère au même âge, et à ce que sont leurs filles ou leurs petites filles aujourd'hui. La vie luttant, les trans, le danger pour tout ce qu'elles aimaient, avait étendu une frémissante couche de bronze autour de leur cœur. Vous voyez bien Sainte de Touffe de Lys dans sa bergère, qui ne traverserait pas aujourd'hui la place des Capucins à minuit pour un empire, et sans se sentir la mort dans les veines. Eh bien, Sainte de Touffe de Lys, n'est-ce pas, Sainte, venait seule avec moi, la nuit par les plus mauvais temps d'orage, porter sur cette côte isolée et dangereuse des dépêches aux chevaliers des Touches, déguisés en pêcheurs de congres, et qui, dans un canot fait de 3 planches, sans aucune voile et sans gouvernail, se risquaient, pour le service du roi, de la côte de France à la côte d'Angleterre, à travers cette manche toujours grosse de quelque naufrage, aussi froidement que s'il se fût agi d'avaler un simple verre d'eau. Et cela pouvait être la mer à boire, interrompit l'abbé, qui, comme le prince de Ligne, aimait jusqu'aux bêtises de la gaieté. Car telle était surtout, continua mademoiselle de Percy, trop partie pour s'apercevoir de l'interruption de son frère, la fonction parmi nous du chevalier des Touches. Entre les gentilshommes qui hantaient le château de Touffe de Lys et qui y concertaient la guerre, il n'y avait, malgré le courage qui les distinguait et qui les égalisait tous, que ce jeune damoiselle de chevalier des Touches pour se mettre ainsi à la mer comme un poisson. Car, vous vous en souvenez, Sainte, c'était à peine un canot que cette pirogue de sauvage qu'il avait construite et dans laquelle il filait en coupant le flot comme un brochet, caché dans l'entre-deux des vagues et défiant ainsi toutes les lunettes de capitaine qui surveillait la manche et l'espionnait, de chaque pointe de vague ou de falaise dans ce temps-là. Vous rappelez-vous, Sainte, qu'un soir de brume qu'il allait partir, vous voulûtes en riant descendre dans cette frêle pirogue, et que vous, si légère alors, poids de fleurs ou d'oiseaux, vous manquâtes de la faire chavirer, ma bergeronnette. Et pourtant, c'était dans une pareille coquille de noix qu'il passait, par les plus exécrables temps, d'une côte à l'autre, toujours prêt à revenir ou à partir quand il le fallait, toujours à l'heure, exact comme un roi, le roi des mers. Certes, parmi ses compagnons d'armes, il y avait des cœurs qui auraient aussi bien que lui tenté l'aventure, qui n'avaient pas plus peur que lui de laisser leur cadavre au crabe, et pour qui la manière de mourir était indifférente quand il s'agissait du roi et de la France. Mais, tout en l'imitant, nul d'entre eux n'eût cru réussir et n'eût certainement réussi. Pour cela, il fallait être un homme à part, plus qu'un marin. Plus qu'un pilote, il fallait enfin être ce qu'il était, cet étonnant jeune homme que la guerre civile avait pris, n'ayant vu la mer que de loin, et n'ayant jamais fait autre chose que de tirer des mouettes autour de la gentilhommière de son père. Aussi les vieux matelots du port de Granville, amateurs du merveilleux, comme tous les autres marins, quand ils surent la périlleuse vie du chevalier pendant 18 mois de course à peu près continuelle, dirent-ils qu'il charmait les vagues, comme on a dit de Bonaparte qu'il charmait les balles et les boulets. Il se connaissait en audace. L'audace du chevalier ne les troublait donc pas. Mais ils avaient besoin de s'expliquer son bonheur par une de ces idées superstitieuses qui sont familières aux matelots. Il aurait dû en effet 20 fois être pris ou succomber dans ces terribles passages. Ce bonheur insolent et constant, cette imprudence si souvent recommencée et d'un résultat toujours assuré, donnait à des Touches une importance considérable parmi les autres officiers de la chouannerie du Cotentin. On sentait que s'il périssait, on ne le remplacerait pas. D'ailleurs, il n'était pas qu'un courrier infatigable et intrépide, qui savait son détroit de mer comme certains guides pyrénéens savent leur montagne. Partout, dans le hallier, dans l'embuscade, au combat, lorsqu'il fallait jouer de la carabine ou s'estafiler corps à corps avec le couteau, c'était un des chouans les plus redoutables, l'effroi des bleus, qu'il étonnait toujours en les épouvantant, quand, dans une affaire, il déployait tout à coup, à travers ses formes sveltes et élégantes, la force terrassante du taureau. « C'est la guêpe, disait-il, les bleus, en reconnaissant dans la fumée des rencontres cette taille fine et cambrée, comme celle d'une femme en corset. Tirez à la guêpe !» Mais la guêpe s'envolait toujours, ivre du sang qu'elle avait versé, car elle avait une vaillance acharnée et féroce. En toute occasion, ce mignon de beauté était et restait l'homme du pouce, si cruellement mordu et coupé à la foire de Bricquebec, de visage blanc, à la lèvre large et rouge, signe de cruauté, dit-on, et qu'il avait aussi rouge que le ruban de votre croix de Saint-Louis, monsieur de Fierdras. Ce n'était pas seulement le fanatisme de sa cause qu'il exaltait, quand, avant ou après le combat, il se montrait implacable. Il était chouan, mais il ne semblait pas de la même nature que les autres chouans. Tout en se battant avec eux, tout en jouant sa vie à pile ou face pour eux, il ne semblait pas partager les sentiments qui les animaient. Peut-être chouanait-il pour chouaner, lui, et était-ce tout. Ses compagnons, ses guérillas, ses gentilshommes, n'avaient pas uniquement Dieu et le roi dans leur cœur. À côté du royalisme qui y palpitait, il y avait d'autres sentiments, d'autres passions, d'autres enthousiasmes. La jeunesse ne sonnait pas vainement en eux son heure brûlante. Comme les chevaliers leurs ancêtres, ils avaient tous ou presque tous une dame de leur pensée, dont l'image les accompagnait au combat. Et c'est ainsi que le roman allait son train à travers l'histoire. Mais le chevalier des Touches, je n'ai jamais revu dans ma vie un tel caractère. À Touffes de Lys, où nous avons tant brodé de mouchoirs avec nos cheveux pour ces messieurs qui nous faisaient la galanterie de nous les demander, et qui les emportaient comme des talismans dans leurs expéditions nocturnes, je ne crois pas qu'il y en ait eu un seul de brodé pour lui. Qu'en pensez-vous, Ursule ? Toutes les recluses de cette espèce de couvent de guerre l'intéressaient fort peu, quoiqu'elles fussent la plupart fort dignes d'être aimées, même par des héros. Nous pouvons bien le dire aujourd'hui que nous voilà vieilles. Et d'ailleurs, je ne parle pas pour moi, Barbe Pétronille de Percy, qui n'ai jamais été une femme que sur les fonds de mon baptême, et qui, hors de là, ne fut toute ma vie qu'un assez brave laideron, dont la laideur n'avait pas plus de sexe que la beauté du chevalier des Touches n'en avait. Mais je parle pour ces demoiselles de Touffes de Lys ici présentes, alors dans toute la splendeur de la vie, deux signes de blancheur et de grâce auxquels il fallait mettre un collier différent autour du cou pour les reconnaître. Je parle pour Hortense de Vély, pour Élisabeth de Manneville, pour Jeanne de Montevreux, pour Iseult d'Orglande, et surtout pour Aimée de Spence, devant qui toutes les autres, si radieuses fussent-elles, s'effaçaient comme un brouillard de rivière devant le soleil. Aimée de Spence était de beaucoup la plus jeune de nous toutes. Elle avait 16 ans quand nous en avions 30. C'était une enfant, mais tellement belle, monsieur de Fierdras, qu'excepté ce cœur de brochet, le chevalier des Touches, il n'y eut peut-être pas un seul homme de cette époque qui la vit sans l'aimer. Cette aimée l'a bien nommée, comme nous l'appelions. Du moins, les 11 gentilshommes de l'expédition des 12, puisque la 12e était une femme, votre servante, baron de Fierdras, avaient-ils tous pour elle une passion romanesque et déclarée? Car tous, les uns après les autres, ils avaient demandé sa main. « Quoi, ils l'ont aimé tous les 11 ?» dit le baron qui partit comme une bonde à ce trait, frappé de ce détail singulier dans une histoire où les événements étaient aussi étonnants que les personnages. « Oui, tous, baron, » reprit mademoiselle de Percy, « et les sentiments inspirés par elle ont plus ou moins duré en ces âmes fortes. Quelques-uns d'entre eux sont restés amoureux et fidèles. Vous vous en étonneriez peu, du reste, si vous aviez connu l'aimé de cette époque. » Une femme qui n'a pas eu de peintre, et comme vous n'en avez peut-être jamais rencontré, vous qui avez tant couru le monde. Halte, fit monsieur de Fierdras, qui avait été Uhlan en Allemagne. Halte, répéta-t-il, comme s'il avait eu toute sa compagnie de Uhlan sur les talons. J'ai connu, en 1800 et quelques, Lady Hamilton, et par les sept collines que je porte, mademoiselle, je vous jure que c'était une commère à faire comprendre, même à un Quaker, les satanées bêtises que l'amiral Nelson s'est permise pour elle. Je l'ai connue aussi, dit à son tour l'abbé, mais mademoiselle Aimée de Spence, que tu vois là, était encore plus belle. C'était comme le jour et la nuit. Corne de cerf, fit le baron de Fierdras surexcité. Je vis un jour cette lady Hamilton en bacchante. Par exemple, interrompit railleusement l'abbé, voilà comme jamais tu n'aurais pu voir mademoiselle Aimée de Spence, Fierdras. Et je te jure, dit le baron qui n'écoutait plus et qui voulait raisonner, que cela n'allait pas mal à cette grande fille d'auberge, interrompit encore l'abbé, parbleu, je le crois bien. Elle avait versé de son robuste bras rose hâlé assez de cruches de bière au palefrenier du Richemont pour jouer de l'amphore et du reste avec grâce. Mais mademoiselle Aimée de Spence n'était pas de cet acabit de beauté-là. Ne t'avise jamais, Fierdras, de lui comparer personne. Ma sœur a raison. On ne vit pas assez longtemps pour rencontrer dans sa vie deux femmes comme celle-là a été. La beauté unique de son temps, mon cher, et elle aura eu le sort de tout ce qui est absolument beau ici-bas. Il n'y aura pas d'histoire pour elle, pas plus que pour les 11 héros qui l'ont aimée. Elle n'en aura déshonoré aucun. Elle ne sera entrée dans la baignoire d'aucune reine. Elle ne comptera point parmi les intéressantes ravageuses de ce monde qui le bouleversent du vent de leur jupe. Pauvre magnifique beauté perdue, qui n'entend même pas ce que je dis d'elle ce soir au coin de cette cheminée, et qui n'aura été dans toute sa vie que le solitaire plaisir de Dieu. Pendant que l'abbé de Percy parlait, le baron de Fierdras regardait celle qu'il avait appelée le solitaire plaisir de Dieu, travaillant alors à sa broderie avec ses deux mains de madone. Il clignait de l'œil, monsieur de Fierdras. C'était son tic, et il en faisait une finesse. De son autre œil qui ne fermait pas, de son œil gris et mérillonné, l'ancien Uhlan allait du beau front d'Aimée, couronné de ses cheveux d'or bronze, de ce beau front à la Mona Lisa, au centre un peu renflé duquel le rayon de la lampe qui y luisait attachait comme une ferronnière d'opale, jusqu'à ses opulentes épaules moulées dans la soie gris de fer, collant au corsage, et peut-être pensait-il en voyant tout cela que malgré le temps, malgré la douleur, malgré tout, il restait du plaisir solitaire de Dieu d'assez riches miettes pour que les hommes et les plus difficiles des hommes puissent faire encore une ripaille de roi. Mais il ne dit pas ce qu'il pensait. Si des incongruités zigzaguèrent un instant dans son cerveau, il les contint sous sa perruque aventurine, et mademoiselle de Percy reprit son histoire en haletant comme une locomotive qui repart. Comme elle était une orpheline, et malheureusement la dernière de sa race, Aimée de Spence passait une partie de ses jours avec nous, grave fille de 30 ans, qui lui faisions comme une troupe de mères. Depuis quelque temps, elle habitait Touffe-de-Lys, quand elle y vit pour la première fois ce jeune homme inconnu qu'elle a aimé, et dont nous avons toujours ignoré le vrai nom, le pays et les aventures. A-t-elle su tout cela, elle, dans les longues heures passées front à front, sous les profondes embrasures de chêne de la grande salle de Touffe-de-Lys, où nous les avons tant laissés causer à voix basse, dès que nous eûmes appris qu'ils s'étaient promis l'un à l'autre, lui aura-t-il révélé le secret de sa vie? Mais si cela fut, elle l'a bien gardé. Tout est enterré dans ce cœur avec son amour. Ah, Aimée de Spence, c'est une tombe, mais une tombe sous une plate-bande de muguet calme. Tenez, monsieur de Fierdras, regardez l'air placide de cette fille finie, dont la vie, depuis 20 ans, est désespérée et si simple, de cette créature digne d'un trône, et qui mourra, pauvre dame en chambre, du couvent des Bernardines de Valognes. Elle n'entend plus, elle écoute à peine. Elle n'a pour tout que ce sourire charmant qui vaut mieux que tout, et qu'elle met par-dessus tout. Elle ne vit que dans sa pensée, que dans ses souvenirs, qu'elle n'a jamais profané par une confidence, oubliant le monde et résignée à l'oubli du monde, ne voyant que l'homme qu'elle a aimé. Non, Barbe, non, elle ne le voit pas, fit ingénument mademoiselle Sainte, toujours au seuil du monde surnaturel, et qui prit au pied de la lettre la métaphore, assez modeste pourtant, de mademoiselle de Percy. Depuis qu'il est mort, elle ne l'a jamais vu. mais elle n'en est pas moins hantée. Et c'est plus particulièrement au mois dans lequel il a été tué qu'il revient. C'est pour cela qu'elle ne peut pas, pendant ce mois-là, rester seule dans sa chambre quand la nuit est tombée. Toute sourde et archi-sourde qu'elle est, elle y entend très bien alors des bruits étranges et effrayants. On y soupire dans tous les coins, et il n'y a personne. Les anneaux de cuivre des rideaux grincent sur leurs tringles de fer comme si on les tirait avec violence. Une fois, je les ai entendus avec elle, et je lui dis, tout épeuré, car les cheveux m'en grigeaient sur le front, « C'est bien sûr son âme qui revient vous demander des prières, aimée. » Et elle me répondit gravement et moins troublée que je n'étais, « Je fais toujours dire une messe à l'autel des morts, le lendemain des soirs où j'entends cela, sainte. » Or, c'était bien vrai que c'était sa messe qu'il voulait, car une fois aimée, ayant tardé d'un jour à la faire dire comme d'habitude le lendemain des bruits, ils devinrent affreux la nuit suivante. Les rideaux semblèrent fous sur leurs tringles, et toute la nuit les meubles craquèrent comme des marrons qu'on n'a pas coupés et qui sautent hors du feu. « Eh bien, reprit mademoiselle de Percy, mécontente d'avoir été pendant si longtemps interrompue, c'est Aimée qui croit aux fantômes, mais pas comme vous, sainte. » Elle lui payait par ce petit mot de mépris son interruption, à cette pauvre et benoîte brebis du bon Dieu qui avait bêlé hors de propos. Cette Aimée qui peut très bien croire à cela qu'elle voit dans son cœur, a toujours été, et est encore pour nous, monsieur de Fierdras, un mystère, plus profond et plus étonnant que le mystère de son fiancé. Lui n'a fait que paraître et disparaître. Quoi donc d'étonnant à ce que nous n'en ayons jamais rien su? Mais nous avons vécu 25 ans avec elle, et nous n'en savons pas sur elle beaucoup davantage. Quand cet inconnu, resté pour nous un inconnu, vint au château de Touffe de Lys, il fut précisément amené par notre chevalier des Touches. Aimée connaissait le chevalier. Elle l'avait vu à plusieurs reprises dans l'Avranchin, chez une de ses tantes, Madame de la Roque-Piquet, une vieille chouanne qui ne pouvait pas chouanner comme moi, car elle était cul-de-jatte, mais qui chouanait à sa manière, en cachant le jour des chouans dans ses celliers et dans ses granges, pour les expéditions de nuit. Aimée avait retrouvé le chevalier à Touffe de Lys, et moi qui, dès lors, avec ma laideur cramoisie, n'avais qu'à observer l'amour dans les autres, j'avais craint parfois, mais sérieusement, qu'elle ne l'aimât. Du moins, toujours quand le chevalier était là, était-ce l'effet de la beauté éblouissante de cet homme, peut-être plus fémininement beau qu'elle, j'avais remarqué sur les paupières obstinément baissées de la belle et noble Aimée un frissonnement, et sur son front rose, un ton de feu qui m'avait souvent inquiété. Âme de ma vie, ils auraient fait, cela n'est pas douteux, un superbe couple. Mais outre que le petit chevalier de Langotière n'était pas de souche à épouser une de Spence, il semblait, à ma Minerve, à moi, qu'un homme comme des Touches devait être terrible à aimer. Dieu y para, elle ne l'aima point. Celui qu'elle aima fut au contraire ce compagnon du chevalier qui arriva avec lui une nuit à Touffe de Lys, par une de ces épouvantables tempêtes que des Touches préféraient au calme des nuits claires pour ses passages. Vous souvient-il de cette nuit-là, Ursule? Nous ne dormions pas. Nous étions dans le grand salon, occupés, vous et Aimée, à faire de la charpie, et moi à fondre des balles, car je n'ai jamais aimé les chiffons. Veillant comme ce soir, mais moins tranquille. Tout à coup, le cri de la chouette s'entendit, et tous deux entrèrent dans leur peau de bique ruisselante, semblable à des loups tombés dans la mer. Le chevalier des Touches nous présenta son compagnon comme un gentilhomme qui avait fait longtemps la guerre du Maine sous le nom de Monsieur Jacques, qu'on lui donnait encore. « Pardieu !» fit le baron de Fierdras, qui tressaillit à ce nom comme à un coup de carabine. « Il est bien connu, ce pseudonyme-là, dans le Maine. Il y a insurgé assez de paroisses. Il y a fait lever assez de fertes. Il y est resté assez glorieux. Monsieur Jacques !» Mais Jean d'Archand lui-même se courbait devant l'intrépidité et le génie de général de Monsieur Jacques. Seulement, mademoiselle, il devait être mort vers cette époque, si c'était celui-là. « Oui, on l'avait cru mort, » reprit mademoiselle de Percy, mais après avoir échappé au bleu, il s'était réfugié en Angleterre, où les princes l'avaient chargé d'une mission personnelle auprès de Monsieur de Frotté. Et c'est pour cela qu'il était venu de Guernesey à la côte de France, dans ce canot de Des Touches, où il ne pouvait tenir qu'un seul homme, et qui faillit 100 fois sombrer sous le poids des deux. Pour supprimer tout fardeau inutile, ils avaient ramé avec leurs fusils. Monsieur de Frotté était alors sur les confins de la Normandie et de la Bretagne, cherchant à ranimer des insurrections expirantes. Monsieur Jacques alla seul les joindre, et revint quelque temps après à Touffe de Lys, grièvement blessé. En y revenant, il avait été obligé de se glisser entre les tronçons épars des colonnes infernales qui pillaient et massacraient le pays, et il avait essuyé je ne sais combien de coups de feu, dont les derniers tirés l'atteignirent. Quand il rentra à Touffe de Lys sur un cheval blessé comme lui, le cheval et l'homme, rouges de sang, tombèrent, le cheval mort sous l'homme mourant et sans connaissance. Les balles dont il était criblé le clouèrent longtemps à Touffe de Lys. Ses blessures, qu'il fallut soigner, l'y retinrent. Elles étaient nombreuses, et nous pûmes les compter, car nous les pansâmes toutes, ma foi, de nos mains de demoiselles. On ne faisait pas de pruderie dans ce temps-là. La guerre, le danger, avaient emporté toutes les affectations et les petites mines. Il n'y avait pas de chirurgien au château de Touffe de Lys. Il n'y avait que des chirurgiennes. J'étais la chirurgienne en chef. On m'appelait le major, parce que je savais mieux débrider une blessure que toutes ces trembleuses. « Tu la débridais comme tu l'aurais faite, » dit l'abbé. Pour mademoiselle de Percy, cette vieille héroïne inconnue, l'opinion de l'abbé représentait la gloire. Elle devint plus pivoine que jamais à l'observation de son frère. « Oui, elle m'appelait le major, » continua-t-elle avec la gaieté de l'orgueil flatté, « et comme c'était moi qui faisais d'ordinaire l'inventaire des blessures que nous avions à fermer, je me rappelle que quand je vis l'épouvantable hachis du corps de M. Jacques, étendu devant nous, je regardais circulairement tout mon groupe d'aide, alors très pâle, comme j'ai toujours été un peu Saint-Jean Bouche d'Or, et plus Bouche d'Or que Sainte, glissa encore l'abbé, je leur dis gaillardement, pour leur donner du courage, en leur désignant le blessé évanoui, « Mort de ma vie, si nous le sauvons, quel beau bijou guilloché ce sera pour celle de vous qui voudra se le passer autour du cou, mesdemoiselles. » Elles se mirent à rire comme des folles, mais Aimée resta sérieuse et en silence. Elle avait rougi. Elle rougit aussi pour des touches, pensais-je. Laquelle donc de ces deux rougeurs est l'amour? C'était du reste, comme le chevalier des touches, un homme que je n'aurais jamais songé à aimer, ce monsieur Jacques, si j'avais été bâti pour les sentiments tendres. Il n'avait pas la beauté féminine et cruelle du chevalier. Mais quoique la sienne fût plus virile, plus brune et plus ardente, elle avait aussi son côté femme, la mélancolie. Les hommes mélancoliques me sont insupportables. Je les trouve moins hommes que les autres hommes. Monsieur Jacques était ce qu'on a appelé longtemps un beau ténébreux. Or, je suis de l'avis de cette coquine de Ninon qui disait « La gaieté de l'esprit prouve sa force ». Je me moque de l'esprit, et je n'y tiens pas, mais cela est certain que la gaieté est un courage de plus. Monsieur Jacques, que ces dames qui ne pensaient pas comme moi appelaient à Touffe de Lys pour le poétiser le beau Tristan, m'aurait donné sur les nerfs avec son impatientante mélancolie, si une grosse fille de mon calibre pouvait avoir des nerfs. Que voulez-vous? Il faut pour moi que les héros eux-mêmes soient de bonne humeur et rient à la figure de tous les dangers. Oh, vous avez toujours été, mademoiselle de Percy, fit l'abbé, un vrai Roger Bontemps, qui, dans une autre époque qu'une époque de révolution, aurait inquiété sa famille. Ce n'était pas seulement des héros qu'il vous fallait à vous, c'était des lurons d'héroïsme. Dieu a bien fait de vous faire l'aide, et tous les matins je la remercie à la messe, car peut-être l'honneur des Percy eût-il couru grand risque sans cette précaution. Riez toujours, riez, allez, mon frère, répondit-elle, riant elle-même, montrant combien elle aimait la gaieté par la façon dont elle accueillait la plaisanterie. Tout vous est permis contre votre cadette. N'êtes-vous pas le chef de notre maison? C'est vrai, glissa alors mademoiselle Ursule, qui n'avait rien dit jusque-là, et qui intervint dans la causerie, pendule retardée qui sonnait. C'est vrai qu'il n'était pas très aimable, ce monsieur Jacques. Il était triste comme un bonnet de nuit. Comme un bonnet rouge, plutôt, interrompit l'impétueuse mademoiselle de Percy. Les révolutionnaires de tous les pays se ressemblent. Les jacobins français étaient aussi rechignés, aussi solennels, aussi pédants que les puritains d'Angleterre. je n'en ai pas connu un seul qui fût gai, tandis que tous l'étaient parmi les royalistes, qui avaient gardé l'esprit du pays qu'on nommait autrefois la gaie France, parmi ces fiers gars qui avaient tout perdu, et même l'espérance, mais qui se consolaient de tout par la guerre, par le piquant inattendu de l'aventure et la risette des coups de fusil. Mais s'il était triste, dit mademoiselle Ursule, qui reprit comme la fourmi reprend son brin de paille, sa petite idée interrompue par cette fanfare d'enthousiasme militaire qui venait de passer sur son cerveau, comme une trombe sur une couche à cornichons, s'il était triste, vous savez bien, ma chère Percy, qu'on disait qu'il avait des raisons pour l'être. Vous savez bien qu'on se disait dans le tuyau de l'oreille qu'il était un commandeur de Malte, et qu'il avait prononcé ses vœux. Oui, répondit mademoiselle de Percy, admettant l'objection. Cela se chuchotait, et si réellement il était commandeur de Malte, l'idée de ses vœux dut le faire cruellement souffrir quand il devint amoureux de cette aimée qu'il ne pouvait pas épouser, car les chevaliers de Malte étaient tenus à célibat comme les prêtres. Mais de cela, quelle preuve avons-nous jamais eue? Si ce n'est cette affreuse pâleur de mort qui lui couvrit tout à coup le visage, le jour où, à table, au dessert, Aimée nous apprit qu'elle s'était engagée, en vous disant, Ursule, devant nous toutes, rose de pudeur et de l'effort que lui coûtait cet aveu qui, pour nous, était une nouvelle, « Ma chère Ursule, je vous en prie, donnez des fraises à mon fiancé. » Il devait être heureux d'un tel mot, et il devint livide. Mais toutes les pâleurs ne se ressemblent-elles pas? Qui peut reconnaître la pâleur d'un homme heureux de celle d'un traître? S'il en était un, si vraiment il avait menti avec Aimée, le coup de feu qu'il a bâti à mes pieds la nuit de l'enlèvement a fait à la pauvre fille moins de mal que ce qu'il attendait s'il était revenu avec nous. Elle a gardé l'illusion qu'il pouvait être à elle, et lorsque je lui rapportais le bracelet qu'elle lui avait fait devant nous des plus belles tresses de sa chevelure, elle ne sut pas, et depuis elle n'a su jamais, que le sang dont il était couvert pouvait être celui d'un homme qui l'avait trompé. « Mais des touches, mais des touches !» fit Monsieur de Fierdra, qui depuis sa remembrance sur Lady Hamilton n'avait plus rien dit, et qui regardait mademoiselle de Percy comme il devait regarder le liège de sa ligne quand le poisson ne mordait pas. Il avait les deux plus belles patiences du monde, celle du pêcheur à la ligne et celle du chasseur à l'affût, et il en avait aussi la double obstination. « Fierdra a raison, dit l'abbé, toujours taquin. Tu t'égailles trop, ma sœur, vieille habitude de chouane. Tu chouanes jusque dans ta manière de raconter. Ta, 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 fit mademoiselle de Percy. Contenez vos jeunesses. Des touches, je vais y arriver. Mais, mordieu, je ne puis pas en venir à des touches et à son enlèvement sans vous parler d'un homme qui a joué le plus grand rôle dans cette crânerie, puisque c'est le seul qui y soit resté. Ce n'est pas une raison, cela, dit gravement l'abbé. Dans une expédition pareille, il y a plus important que de bien mourir. Il y a réussir, repartit la vieille amazone, qui avait gardé sous ses côtes grotesques le génie de l'action virile. Mais il a réussi, mon frère, puisque nous avons réussi et qu'il était avec nous. D'ailleurs, quoique je ne me soucie guère de ce beau Tristan, comme on disait à Touffe de Lys, qui a laissé sa tristesse sur la vie d'Aimée, je n'en serais pas moins juste avec lui. Il n'y allait pas gaiement, mais il y allait. C'est lui, c'est ce sentimental, qui, lors du premier emprisonnement de Destouches à Avranches, prit une torche dans sa languissante main, entra résolument dans la prison, et n'en sortit que quand tout fut à feu. « Comment, à Avranches ? » objecta le baron de Fierdra, étonné. « Mais c'est à Coutances que vous avez délivré Destouches, mademoiselle. »« Ah ! » fit mademoiselle de Percy, heureuse d'une ignorance qui donnait de l'inattendu à son histoire. Vous étiez en Angleterre en ce temps-là, vous et mon frère, et vous n'avez su que l'enlèvement, qui, de fait, eut lieu à Coutances. Mais avant d'être emprisonné dans cette ville, c'est à Avranches qu'il l'avait été, et il ne fut même transféré à Coutances que parce qu'à Avranches nous avions tenté de brûler la prison. « Très bien, dit le baron Fierdra apaisé, je ne savais pas, mais j'en suis enchanté que le chevalier Destouches eût autant coûté à la République. » « Laisse-la donc compter, Fierdra, » fit l'abbé, qui de tous était celui qui avait le plus interrompu la conteuse, et qui se montrait le plus animé contre ceux qui avaient son vice, selon la coutume de tous les vicieux et de tous les interrupteurs. C'était donc vers la fin de l'année 1799, reprit l'historienne du Chevalier des Touches. Il y avait plusieurs mois que M. Jacques était avec nous, à peu près guéri, mais affaibli et souffrant encore de ses blessures. Pendant cette longue convalescence de M. Jacques à Touffes-de-Lys, où il vivait caché, comme on vivait dans ce temps-là quand on ne se trouvait pas le fusil à la main, au grand air, sous le clair de lune, Destouches, lui, le charmeur de vagues, était repassé peut-être 20 fois de Normandie en Angleterre et d'Angleterre en Normandie. Nous ne le voyions pas à chacun de ces passages. Souvent, il débarquait sur des points extrêmement distants les uns des autres pour dépister les espions armés et acharnés qui, tapis sous chaque dune, aplatis dans le creux des falaises, couchés à plat ventre au fond des anses, le long de ces côtes dentelées de criques, cernaient la mer de toutes parts et faisaient coucher à fleur de sol des baïonnettes et des canons de fusil qui ne demandaient qu'à se lever. Plus il allait, ce chevalier des Touches, traqué sur mer par des briques, traqué sur terre par des soldats et des gendarmes, plus il allait, cet homme qui caressait le danger comme une femme caresse sa chimère, ce rude joueur qui jouait son va-tout à chaque partie et qui gagnait, plus il était obligé, cependant, malgré son impassible audace, d'user de précaution et d'adresse. Car le bonheur inouï de ses passages avait exaspéré l'observation de ses ennemis, pour lesquels il était devenu l'homme de son nom, la guêpe. La guêpe insaisissable et affolante, l'ennemi invisible, le plus provoquant et le plus moqueur des ennemis. Il ne faisait plus l'effet d'un homme en chair et en os, mais comme je l'ai souvent ouï dire aux gens de mer de ces rivages, d'une vapeur, d'un farfadet. Il y avait entre les Bleus et lui, et les Bleus, ne l'oubliez pas, c'était tout le pays organisé contre nous, groupes de partisans éparpillés à sa surface, qui ne nous rattachions les uns aux autres que par des fils faciles à couper. Il y avait entre les Bleus et lui un sentiment d'amour-propre excité et blessé, plus redoutable encore, à ce qu'il semblait, que l'implacable haine de Bleus à Chouan. La guerre entre eux était plus que de la guerre, c'était de la chasse. C'était le duel que vous connaissez, monsieur de Fierdras, entre la bête et le chasseur. Déjà plus d'une fois, racontait-on dans les cabarets et les fermes du pays, dont cet homme est peut-être encore la légende, il avait été sur le point d'être pris. On lui avait tenu, disaient les paysans narquois, la main diablement près des oreilles. On rapportait même un fait, mais celui-là était avéré, il avait eu la notoriété d'un combat en règle, c'est qu'une fois au cabaret de la Faux, dans les terres entre Avranches et Granville, il s'était battu seul contre une troupe de républicains, enfermé et barricadé dans le grenier du cabaret, comme Charles XII à Bender, et qu'après avoir tiré toute la nuit par les lucarnes et mis par terre une 60aine de Bleus, il avait disparu au jour par le toit. On ne savait comment, disaient les femmes, dont il frappait l'imagination superstitieuse, mais comme s'il eût eu des ailes au dos et sur la langue du trèfle à quatre feuilles. Ainsi, il n'était pas un farfadet que sur la mer, il l'était aussi sur le plancher des vaches. Beaucoup d'expéditions de terre, dont il avait fait partie, l'avaient prouvé du reste. Seulement, il ne pouvait pas l'être toujours. La martingale qu'il jouait devait nécessairement avoir un terme, et le danger qu'il courait sous les deux espèces, il devait y succomber à la fin. Or, cet espoir de prendre Destouches, de tenir la guêpe, et de pouvoir bien l'écraser sous son pied, avivait et transportait jusqu'au délire ses âmes irritées et créait pour lui un péril si certain et tellement inévitable que, dans l'opinion des hommes de son parti, comme dans celle de ses ennemis, sa prise ou sa mort n'était plus qu'une question de temps. Et que quand à Touffes-de-Lys on vint nous dire cette terrible nouvelle, Destouches est pris, nous n'eûmes pas même un étonnement. Celui qui vint nous dire à Touffes-de-Lys cette terrible nouvelle était un jeune homme de cette ville-ci, dont vous ne savez probablement pas le nom, quoi que vous soyez du pays, monsieur le Fierdras, car il n'était pas gentilhomme. Il s'appelait juste le Breton. L'un des préjugés que les Bleus ont le plus odieusement exploité contre nous, c'est que dans la guerre des Chouans, nous n'étions que des gentilshommes qui remorquaient les paysans au combat. Et rien n'est plus faux. Nous avions avec nous des jeunes gens des villes, dignes de porter l'épée, qu'ils maniaient très bien. Et juste le Breton était de ceux-là. Il avait été anobli par l'épée des gentilshommes qu'il avait traités en égal. en croisant le fer avec lui dans plusieurs de ses duels, comme on en avait alors à Valognes, où le duel a été longtemps une tradition. Aussi, quand la chouannerie éclata, il vint à nous, s'est anobli par l'épée, et il nous apporta la sienne. La sienne était au bout d'un bras d'Hercule. Juste était fort comme le chevalier des touches, mais il ne cachait pas sa force sous les formes sveltes et élancées du chevalier, qui faisait toujours cette foudroyante surprise quand tout à coup il la montrait. Non, c'était un homme trapu et carré, blond comme un celte qu'il était, car son nom de Le Breton disait son origine. C'était un Breton mêlé de Normands. Sa famille avait passé en Normandie, et elle y avait oublié ses rochers de Bretagne pour les pâturages de cette terre qui a des griffes pour retenir qui la touche, car qui la touche ne peut s'en détacher. Il semblait qu'il aurait fallu, pour tuer ce juste Le Breton, lui jeter une montagne sur la tête. Et il est mort en duel après la guerre, comme nous avions cru jusqu'à ce soir que des touches étaient morts lui-même. Et il est mort d'un misérable coup d'épée dans l'aine, le croira-t-on, sans profondeur. Je l'ai vu cracher le sang 6 mois et mourir épuisé comme une fille pulmonique avec une poitrine qui ressemblait à un tambour. Juste savait, à n'en pouvoir douter, que des touches étaient prises, mais il ignorait encore comment il avait été pris. Avec un pareil homme, nous dit-il, et nous pensions comme lui, il fallait qu'il y eût eu de la trahison. Il y en avait eu, en effet, je l'ai su plus tard, et ce fut même là, comme vous le verrez, une bonne occasion pour juger du granit coupant qu'avait dans le ventre ce beau et délicat des touches, qui m'avait fait un instant peur pour aimer, quant à ses rougeurs incompréhensibles, je m'étais imaginé qu'elle pouvait l'aimer. Un homme comme des touches, dit M. Jacques, ne peut jamais être pris, tant qu'il y a un chouan debout, avec un fusil et une poire à poudre. Il n'en faut pas même tant, fit tranquillement Juste. Avec nos seules mains vides, nous le reprendrions. C'était dans les environs d'Avranches que des touches avaient été enveloppées et saisies par une troupe tout entière, on disait tout un bataillon, et c'est dans la prison de cette ville qu'il avait été déposé, en attendant son exécution qui serait certainement bientôt faite, car la République n'y allait jamais de main morte, et ici il fallait qu'elle y allât de main très vive, si elle ne voulait pas que cet homme, l'idole de son parti et doué du génie des ressources, échappât à ses bourreaux. La chouette a sifflé du côté de Touffe-de-Lys, ajouta Juste Le Breton. Et le soir même, à la tombée, nous vîmes arriver au château, sous des déguisements divers de colporteurs, de mendiants, de rémouleurs et de marchands de parapluies, car cette guerre de chouans était nocturne et masquée, une grande quantité de nos gens, qui, au premier bruit de la prise de des touches, s'étaient jurés de le délivrer ou d'y périr. Il en vint même trop. Ce fut une folie que ce grand nombre, dirigé sur un point unique et venant aboutir à Touffe-de-Lys. Mais cela vous donnera une idée de l'importance du chevalier des touches, que les chouans, qui avaient la prudence au même degré que la bravoure, aient pu compromettre un instant, par un zèle trop vif, l'existence d'un quartier général aussi commode pour des guérillas comme eux que le château de Touffe-de-Lys. Vous ne vous doutez pas, monsieur de Fierdras, ni vous non plus, mon frère, de ce que, dans l'intérêt de notre cause et de ses défenseurs, nous avions fait de Touffe-de-Lys. Et si je ne vous le disais pas, mon histoire serait incomplète. Nous avions transformé ce vieux château démantelé, sans pont-levis et sans herse, qui n'était plus depuis longtemps un château fort, mais qui était encore une noble demeure, en un château humilié et paisible auquel la République pouvait pardonner. Nous en avions fait combler les fossés, baisser les murs, et si nous n'avions pas abattu les tourelles, nous les avions du moins découronnées de leurs créneaux, et elles ne semblaient plus que les 4 spectres blancs des anciennes tourelles décapitées. Partout où elles brillaient autrefois, sur la grande façade du château, dans les coins des plafonds, sur les hautes plaques des cheminées et jusque sur les girouettes des toits, nous avions fait effacer ces armoiries charmantes et parlantes des Touffe-de-Lys, qui portent, comme vous le savez, de Sinople à 3 touffes de lys d'argent, avec la devise au jeu de mots héroïques « Ils ne filent pas ». Hélas, les pauvres lys, ils avaient filé. Ils s'en étaient allés jusque de ce jardin, où, de génération en génération, on en cultivait d'immenses corbeilles qui faisait de loin ressembler le vaste parterre à une mer couverte de l'albâtre de ses écumes. Nous avions partout remplacé les lys par des lilas. Des lilas, c'est peut-être des lys en deuil. Oui, nous avions accompli tous ces sacrilèges. Nous avions consommé toutes les petites bassesses de la ruse qui joue la soumission résignée pour conserver à nos amis ce lieu de réunion et d'asile, doux et désarmé comme son nom, qui semblait la maison de l'innocence, et dans laquelle on voyait moins les hommes et les armes derrière ces robes de femmes qui y flottaient toujours. Excepté les jardiniers, il n'y avait que des femmes à touffe de lys. Nous étions servis par des femmes. C'est à l'aide de toutes ces précautions, de toutes ces coquetteries de douceur, que nous avions pu faire de notre nid de palombes effrayées une aire momentanée pour ces aigles de nuit qui s'y abattaient comme des touches et comme Monsieur Jacques. Seulement, vous le comprenez bien, la sécurité de tout cela n'existait qu'à la condition que les chouans qui s'abouchaient là pour compléter leur guerre d'embuscade n'y fussent jamais très nombreux. La prise de des touches fut l'unique dérogation qui ait été faite à cette règle. Mais les chefs comprirent l'imprudence d'une grande réunion, et ils égaillèrent leurs hommes. Quand un pays tout entier est hostile, les petites troupes valent mieux que les grandes. Elles sont plus résolues, leurs efforts plus ramassés et plus puissants, leur action plus rapide, leur marche plus cachée. Quelques hommes suffisaient pour enlever des touches, et ceux qu'on choisit à touffe de lys étaient hommes à aller le reprendre sous le tranchant de la guillotine ou à la gueule de l'enfer. Ce sont ceux-là que depuis on a appelés les douze, et qui ont perdu dans ce nom collectif des douze leur nom particulier que personne ne sait à cette heure. Parfaitement vrai, dit M. de Fierdras intéressé, qui décroisa ses jambes de serre et refit en sens inverse l'X qu'elle formait. Nous n'avons pas entendu dire un seul de leurs noms en Angleterre, n'est-ce pas l'abbé? Et Sainte Suzanne lui-même ne les savait pas. Et quand celle qui vous raconte cette histoire, au coin du feu, dans cette petite ville endormie, reprit Mademoiselle de Percy, sera couchée dans sa bière, sous sa croix, dans le cimetière de Valognes, il n'y aura plus personne pour dire ses noms oubliés à personne. Ceux qui les ont portés étaient trop fiers pour se plaindre de l'injustice ou de la bêtise de la gloire. Aimée, que vous voyez ici, abîmée en elle-même bien plus que dans sa broderie, s'est absorbée dans son Monsieur Jacques. Et Sainte et Ursule de Touffe de Lys ne vous diraient peut-être pas tous les 11 noms des 12, mais moi je le puis, je les sais. Et après ma mort, ajouta-t-elle, presque belle d'enthousiasme mélancolique, elle qui n'était qu'un laideron joyeux, tout le temps que je ne serai pas tout à fait dissoute en poussière, on n'aura qu'à ouvrir mon cercueil pour les savoir. Ces noms qui méritaient la gloire et qui ne l'ont pas eu. On les trouvera dans mon cœur.